Un matin, je n'aurais même pas besoin de prêcher. Croyez-vous que le Seigneur est présent? Ce qu'André a amené là, ce matin, là, c'est exactement mon message le matin. Dieu est présent, puis Dieu nous parle. Puis il nous parle pas qu'aujourd'hui, il nous parle à toutes les réunions. Mais des fois, on sent pas, puis là, on pense que Dieu est pas là. Ça marche pas avec le feeling, ça marche avec la vérité qui est agissante à travers sa parole, qui change des vies. Comment est-ce qu'il y en a qui ont été touchés quand notre frère nous a partagé qu'est-ce qu'il a emmené? Puis ça, c'est l'Esprit-Saint qui est en train de faire une œuvre tranquillement pour vous préparer au message qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Des choses qui nous flattent? De semaine en semaine, entendre des choses qui nous encouragent, qui nous édifient, des choses qui nous emmènent à rêver, puis qu'on vit des nuages, puis que là, on est à 10 000 pieds d'altitude. Puis si on fait le point des fois, là, pour être franc, là, si on fait le point à partir d'aujourd'hui, puis un an en arrière, combien de fois qu'on rentre dans l'église, pas rien qu'en cette église-ci, je parle pour n'importe quelle église qu'on s'assit, puis on s'attend de se faire du bien quand le message est annoncé. Qu'on s'attend de se faire dire des flatteries, des choses qui nous feraient du bien, personnellement. Des choses qui nous amènent à rester comme qu'on est, mais on est comme, moi j'aime ça me faire dire que je suis ci, je suis ça, mais comment de fois qu'on aime aussi entendre des paroles qui nous disent, fais donc cela. Puis ça t'amène d'une autre direction, dire c'est vrai, on s'attend à des choses qui nous encouragent, puis des fois, c'est des choses, on revient donc au pied de la croix, puis qu'on fasse tes fautes. Repens-toi. Il y en a qui sont encore au niveau d'être un bébé en train de se faire bercer. Ils ont besoin de se faire chanter des petites paroles pour qu'ils les aident à s'endormir. Puis ils viennent à l'église, puis ils sont pas capables de prendre une nourriture solide, mais ils s'en attendent même pas à une nourriture solide. Quand que je parle de solide, c'est quelque chose qui peut changer ta vie, qui va te donner quelque chose d'agissant dans ta vie, qui va t'amener à vivre autre chose, parce que tu vas recevoir des guérisons, des délivrances par la parole qui est annoncée. Mais des fois, c'est pas toujours des paroles qui nous flattent. Puis le premier passage que je parle ce matin dans 2 Timothée 4:3, qui est un peu le petit verset qui va nous ébranler un petit peu. Car il viendra un temps où ce que les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur plaisir. Dans ce verset-là, ça nous parle dans la fin des temps. Puis je pense qu'on est rendu dans cette période-là. Où est-ce que on n'aime pas ça se faire brasser? On n'aime pas ça entendre des choses qui nous dérangent. On n'aime pas ça amener de faire des choses qui nous amènent comme repens-toi, regrette. Tu sais, plutôt, on aime être dans la joie, puis péter le feu, puis des fois, c'est le contraire. Le Seigneur veut t'amener à une repentance, à un regret. À pleurer même, à avoir même de la tristesse quand on entend ce qu'il nous dit pour nous amener à changer de chemin. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui aiment ça, changer d'église, parce qu'ils cherchent à entendre rien que des choses qui font du bien? Pour vous autres, je le sais, vous avez le goût d'entendre la parole de Dieu, puis c'est pour ça qu'elle va avoir un effet dans votre vie. Parce que vous avez le goût d'entendre des choses qui viennent de la part du Seigneur, puis c'est des choses qui nous ébranlent. Quand Dieu fait le ménage, c'est pour de bon. Savez-vous que le message qui était prêché par Paul, là tantôt notre frère nous a parlé d'un message prêché par Jean-Baptiste, mais Paul, son message qui amenait aux gens, dans Actes 26-20, ça dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, ça veut dire partout ce qui passait. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Le message de Paul n'était pas un message « Acceptez Jésus, puis votre vie est correcte. Acceptez Jésus, puis tout va aller bien. Acceptez Jésus, puis vous avez tout accompli la vie chrétienne en acceptant Jésus. » Juste accepter Jésus, ça donne zéro. C'est pas juste une attitude qu'on a envers Jésus qui compte. De savoir, bon là, je suis prêt à admettre qu'il est le sauveur. Le message de Jean-Baptiste, le message de Jésus, le message de Paul, c'était une repentance envers Dieu, une conversion, puis avec, vous devez pratiquer des œuvres dignes de la repentance. C'est ça que Paul y prêchait. Vous pouvez pas rester pareil une fois que tu as pris position pour Jésus. À partir de ce moment-là, ta vie change. Dans la suite, on va voir c'est quoi qu'il y ait des œuvres dignes de la repentance. Savez-vous qu'une personne qui passe en passant par Jésus, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, puis en se disant « je m'engage à le suivre et à le servir », il n'est pas juste pardonné de ses péchés. Mais il est mort en Christ. En Romains 6, le verset 11 à 14, ça nous dit « ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, puis n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Savez-vous que le péché, il n'y a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu? Parce qu'il est mort. Mais disons qu'il est supposé d'être mort. Puis tu peux demander à un mort, mettons si vous connaissez quelqu'un qui est mort, puis vous savez c'est à quoi son point faible dans sa vie, quelque chose qu'il aimait beaucoup, quelque chose qui était bien tenté, mettons si c'est un alcoolique, ce gars-là, toute sa vie. Il arrive, il est mort, tu t'en vas au salon mortuaire avec une bouteille de fort, puis tu y présentes, puis m'ont dit, fais-y sentir, puis tu veux même y essayer d'y en faire boire une gorgée au mort, puis même si c'était son point faible avant, il sera plus tenté. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Quand il est mort, t'es plus tenté par les choses qui t'entourent. Puis en Jésus, on est mort en Jésus. Quand on est venu à Jésus, on s'est engagé à le suivre, à le servir, à partir de ce moment-là, t'es mort spirituellement. T'as une nouvelle vie qui est commencée, puis t'es plus supposé d'être attiré ou être dirigé dans les directions qui sont contraires à la volonté de Dieu. La Bible nous affirme que le péché, il y a du pouvoir que sur ceux qui s'y livrent. Parce qu'en Jésus, t'es libéré du péché et de son pouvoir. Je tiens amen à cela. En Jésus, ça c'est la parole de Dieu qui dit, vous êtes libérés du péché et du pouvoir. Si le péché a du pouvoir dans votre vie, c'est parce que vous vous livrez dans le péché. Ceux qui sont en Jésus sont morts au péché. T'es mort face à tout l'ensemble des péchés que tu vivais avant. Il y a une nouvelle loi spirituelle qui nous est comme accordée en recevant la parole de vie, en recevant Jésus dans ta vie. Il y a une nouvelle loi spirituelle qui donne la possibilité de sortir du péché. Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. À quelque part, il y a une vérité là-dedans. C'est qu'il faut que le chrétien, les chrétiens d'avant l'avaient réalisé, mais il faut que les chrétiens d'aujourd'hui le réalisent aussi, que nous devons combattre quand que nous sommes enfants de Dieu. Puis Paul, il dit, on combat pas avec des armes charnelles, même si on est dans la chair. C'est des armes spirituelles qui nous ont été données à notre conversion. À partir de ce moment-là, tu as une grâce qui t'a été donnée de pouvoir être libéré de tous tes péchés qui t'entraînaient auparavant. Puis Paul, il nous encourage à prendre les armes spirituelles et à combattre avec ces armes-là pour sortir du péché. Pour réussir à sortir du péché, il y a des règles spirituelles qui ont été données que le pécheur, il doit respecter s'il veut s'en sortir. Premièrement, il faut être illuminé par la parole de Dieu. Se faire exposer à la lampe solaire qui est la lumière de Dieu. Savez-vous que la parole, c'est une lampe? La parole, elle nous éclaire. Mais un chrétien, s'il veut sortir de sa vie de péché, il faut qu'il se laisse éclairer par la parole qui est la lampe solaire venant de Dieu. La lumière de Dieu va faire la lumière dans ta vie. Tu peux pas être libéré si tu connais pas les principes bibliques. Si tu peux pas t'accrocher par la foi aux vérités spirituelles, puis de les expérimenter si tu les connais pas. Puis tu peux pas aussi travailler sur un point dans ta vie si tu connais pas quel point qu'il faut que tu travailles. C'est pour ça qu'il est important d'être exposé à la lumière divine. Autant qu'il y a certaines personnes qui aiment à se faire chauffer la couenne par les lampes solaires, parce que ça fait du bien à leur corps, mais un vrai chrétien devrait aimer se faire chauffer l'âme par la parole de Dieu. On appelle cela, dans la parole de Dieu, venir à la lumière afin que tes œuvres soient dévoilées. Dans Jean 3, le verset 20-21, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Il haït la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui aiment être exposés à la lumière de la parole de Dieu? Mais si vous êtes dans cette attitude-là, vous allez vivre des expériences. Vous allez pouvoir voir ce que Dieu veut faire dans votre vie, puis vous allez voir aussi les moyens que Dieu veut vous donner pour vous en sortir. Une fois que tu es exposé à la lumière, puis tu commences à voir, le deuxième point, il faut que tu admettes, c'est se soumettre à la révélation divine. Quand Dieu te montre quelque chose dans ta vie, il veut que tu l'admettes, que tu as ce problème-là. Un des premiers critères d'un AA, quand tu veux te sortir de l'alcoolisme, faut que tu l'avoues que tu es alcoolique. Si tu t'avoues pas que tu es alcoolique, puis tu vas dans les assemblées des AA, ça n'aura aucun effet sur toi. Tu vas entendre le monde, « Ah, ça c'est pour lui », parce que tu te rends pas compte que tu l'es alcoolique. Puis si tu t'en as aperçu, puis tu veux pas l'admettre, tu t'en sortiras pas. Mais spirituellement, c'est les mêmes règles. Est-ce qu'on est prêt à admettre ce que Dieu veut nous montrer dans notre vie? Parce qu'il y a des choses à nous montrer. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient que Dieu a rien à leur montrer dans leur vie? Il n'y a aucun amen? Moi, quand je me regarde dans le miroir, là, quand la lumière est fermée dans la chambre de bain, là, je me trouve beau. Je vois aucun défaut. Tout est parfait. Puis je m'accepte comme ça. Puis ça me fait du bien de me regarder, ça m'encourage quand la lumière est fermée. Mais quand j'allume la lumière, aïe aïe, c'est là que t'as voué la crasse, les plis, les points noirs, les boutons, tout ce qui peut nuire à ton apparence. C'est qu'une fois que la lumière est allumée, que tu t'en aperçois. Moi, je pense que spirituellement parlant, on agit comme ça des fois. On se pense bien correct spirituellement. On se pète les bretelles, moins... Je suis correct. Lui, il aurait dû l'entendre, le message qui a été dit à matin. Lui, ça lui fait du bien. Mais savez-vous que quand on allume la lumière, on voit ce qu'on est et on peut commencer à travailler. Mais si on aime rester à la lumière fermée, là, on est content. Mais quand on sort dehors, les autres les voient, les défauts. Moi, je peux m'empêcher de les admettre puis dire, je les vois pas mes défauts, je me vois parfait. Mais quand l'autre te regarde, par exemple, lui, il est voué tes défauts. Dieu aussi est voué tes défauts. Tout le monde est voué tes défauts. Si tu as l'attitude à dire, « moi, j'ai rien changé, je suis correct. » Tu fais erreur. Tu es plein de défauts. Le premier défaut, c'est que tu ne vois pas clair. Tu devrais allumer la lumière, te laisser exposer à la parole de Dieu. Puis là, tu vas voir des choses. Puis commence à les admettre qui sont là. Puis tu vas expérimenter des choses. Si on les voit nos problèmes, on doit commencer à travailler dessus. Il faut les admettre. Il faut l'admettre notre condition sans se faire de masque pour se cacher. C'est vrai. Il y en a des fois, ils se mettent des masques, puis moi, je suis un beau chrétien, ils rentrent en souriant. Ils sortent dehors, là, puis le sourire leur tombe, puis ils sont prêts à sauter sur tout le monde qui voit. C'est un masque qu'il a mis quand il est rentré. Puis il se voit pas. Des fois, c'est inconscient, puis ça, c'est un fait. Des fois, on a des comportements inconscients parce qu'on les voit pas. Puis la minute qu'on s'arrête, on commence à regarder notre vie. Des fois, le monde nous le dit même, puis on veut pas l'admettre. Puis on regarde, si on s'arrête, on fait le point, puis on s'en aperçoit, faut que tu l'admettes, puis il faut que tu arrêtes de faire ton masque, puis il faut que tu fasses le ménage. Tu demandes à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne l'admets pas, c'est de l'orgueil, puis tu résistes à la révélation divine. Jean 1, 5, 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce qu'on est de ceux qui veulent marcher dans les ténèbres? Je crois pas. Mais est-ce qu'on veut avoir un peu plus de lumière? Puis pas juste mettre un dimmer pour en avoir juste un petit peu. La lumière complètement. Puis si vous avez des pochettes 40 watts, mettez-en des 100 si vous voyez pas clair. Parce qu'on a tous des défauts. On a tous des choses qui nuisent au plan de Dieu dans notre vie. Puis la lumière de la parole de Dieu, là, si on la lit, c'est plus qu'une 100 watts. Elle va nous éclairer. Une fois qu'on est conscient de nos fautes et qu'on les admet, une autre étape spirituelle qu'on doit faire dans notre vie, c'est de confesser ses péchés à Dieu. Puis des fois même, confesser nos péchés aux autres, si c'est quelque chose qu'on a fait à quelqu'un, si on a fait du tort à quelqu'un. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. À quelque part, il y a des enfants de Dieu qui marchent dans l'aveuglement spirituel, ils ne confessent plus de péché, puis ils se pensent corrects. Puis la Bible me dit, t'es pas pardonné. Je parle pas là dans ce verset-là d'un pardon qui va dire tu vas être sauvé ou pas sauvé. Tu peux être sauvé, puis marcher dans des choses qui offensent ton Père, puis à cause de ça, t'es pas pardonné de ces offenses-là, puis que là, il y a quelque chose qui fait un obstacle à ta communion avec lui. Tu marches en tâtonnant, tu marches en noirceur, puis tu t'enfarges partout, puis tu t'en aperçois pas jusqu'à temps que la lumière se fasse dans ta vie. La confession, c'est le premier pas pour arriver à être pardonné et être purifié par Dieu. Parce que Dieu veut pas juste te pardonner, il veut te purifier, il veut te rendre pur. Puis quand j'entends le sens du mot pur, c'est qu'il fait pas juste... t'es pardonné. C'est qu'il te lave complètement, il enlève toute la souillure de ce péché-là, puis en plus, il va te donner ce qu'il faut pour marcher d'une manière pure devant lui. Si je lis ce verset-là, comment est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien peut être des mois complets sans confesser un seul péché à Dieu? Si ça fait des mois que vous n'avez pas confessé un péché à Dieu, vous êtes dans l'aveuglement spirituel. Tu peux être son enfant, mais tu marches dans les ténèbres, tu marches pas selon la vérité. Dieu veut que tu confesses tes fautes, il veut que tu lui demandes pardon en mentionnant la faute que tu es en train de faire. Si tu réalises que tu t'es échappé, puis tu es en colère, puis tu as dit des insultes, quand tu t'en aperçois, il ne faut pas qu'à demander, te dire « Ah, ben, je suis pas correct ». L'admettre, c'est une chose, mais confesse-la à Dieu, « Seigneur, là, ce que je viens de faire là, c'était pas correct ». Je te demande pardon, puis je te demande de me purifier de cela. Puis si tu as fait du tort à quelqu'un, va y demander pardon aussi. Puis le Seigneur, il te garantit de te pardonner, puis de te purifier. La puissance du péché n'aura plus de pouvoir sur toi si tu marches dans la confession, si tu marches dans la lumière. Sans repentance, il n'y a pas de pardon, mais encore moins de délivrance. Parce que si tu n'es pas pardonné de cette faute-là, tu es encore moins pardonné, délivré. Tu vas marcher encore dedans, tu vas rester dans les ténèbres, puis tu vas t'enfarger une deuxième fois, tu vas t'enfarger une troisième fois, tu vas t'enfarger une quatrième fois. Tant que c'est pas mis à la lumière, ce péché-là, il va revenir dans ta vie. Peu importe le péché, un petit ou un gros. Paul, il prêchait la repentance à Dieu avec des œuvres dignes de la repentance. C'est bien beau de dire, je me suis détourné de mon péché, je me suis tourné vers Dieu, mais là, quelque part, si tu retournes, faut que tu aies des œuvres qui démontrent que tu es repentant. Quand tu t'es converti pour être pardonné, c'est pas juste quand tu l'as accepté il y a 20 ans. Aujourd'hui encore, tu as peut-être des choses, faut que tu te reconvertisses au Seigneur, que tu te retournes vers lui, parce que dans notre marche, C'est vrai qu'on peut s'égarer, puis on marche dans des voies qui sont tortueuses, qui ne sont pas les celles de la parole de Dieu. Puis quand on marche dans ces voies-là, il faut se repentir, ça veut dire le regretter, et se retourner encore vers le Seigneur, qui est se convertir à lui encore. Pas juste quand tu l'as accepté, mais tous les moments de ta vie, il faut que tu te revires de bord face au péché, puis que tu tournes vers Jésus. Péché est en arrière, puis Jésus est en avant. Si tu marches vers le péché, tu as besoin de te détourner, puis de retourner. Acte 26-20, c'est le verset que je viens de dire. À sud de Damas, c'est le même que j'ai lu tantôt, puis à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous devons marcher d'une manière digne en tant qu'enfants de Dieu. Digne de notre repentance, ça veut dire, tu peux pas confesser un péché puis vouloir retourner dedans. Tu peux pas dire que tu marches dans la lumière et te pratiquer des péchés volontairement, tu peux pas. Si tu le fais, t'es dans les ténèbres encore. La lumière de Dieu t'éclaire pas puis tu goûteras pas de délivrance dans ta vie. À moins que tu te repentes, que tu te convertisses, tu te retournes vers le Seigneur, tu confesses tes fautes, puis tes confesses aux autres, si tu en as eu, puis tu fais la paix avec Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir continuer à faire un ménage dans ta vie, puis te délivrer. Un chrétien éclairé est conscient de ses fautes, puis marche dans le regret en voulant s'en sortir. 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Dieu peut t'amener, en mettant le doigt sur un bobo, à ce que tu voies ta faute et que tu vives des moments de tristesse. Comme je disais tantôt, on va entendre des paroles qui nous font flailler, qui nous amènent dans la joie, mais des fois Dieu veut nous parler, puis il veut nous amener dans la tristesse pour qu'on vienne à repentance. Puis ça, c'est un chemin que tu ne te repentiras pas. C'est un chemin que tu vas être content d'avoir atteint, parce que tu vas vivre une expérience spéciale avec le Seigneur, puis il va te libérer. Une fois que tu le fais, que tu tournes vers le Seigneur, puis tu confesses tes fautes parce que tu les as vues, tu les as confessées, tu tournes vers le Seigneur, tu es repentant, tu as eu de la tristesse. Il y a des choses qu'il faut que tu continues à demander à Dieu. Premièrement, d'avoir une bonne volonté qui te soutienne. Dans Psaume 51:12, il y a certains versets, c'est 51:14. Donne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On a besoin d'avoir une attitude constante de vouloir avancer, de vouloir avoir une bonne volonté. Sur le moment, c'est une chose, mais si 15 minutes après, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai vécu, ma repentance, mon retour à Dieu, puis je retourne pratiquer ce que j'avais pratiqué, ça marche pas. Tu as besoin que Dieu vienne te communiquer quelque chose qui va te donner un désir, non seulement de te repentir là, mais tu vas y penser encore d'une demi-heure, tu vas y penser encore le soir, tu vas y penser encore demain, tu vas y penser encore la semaine prochaine. Tu vas avoir toujours un désir continuel de vouloir mettre en pratique la parole, puis de mettre ta vie en règle devant Dieu. Tu as besoin d'avoir cet esprit-là qui t'alimente d'une bonne volonté à continuer dans la bonne voie. Puis ça vient de Dieu. Ça, c'est David qui avait prié ça, qui a demandé d'avoir qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Pensez pas de vivre votre vie chrétienne dans la victoire si j'ai pas l'intention de demander à Dieu une bonne volonté. Parce que dans votre chair, ça serait combattre vos armes charnelles. Si vous comptez vous sortir de vos péchés par votre propre force. Vous avez besoin de la force de Dieu qui vient vous soutenir, premièrement dans la volonté de vouloir continuer, mais aussi d'avoir la force de résister. Luc 21:36, ça dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On a besoin de force, spirituellement parlant, puis c'est donné encore par Dieu. Tu veux être capable de passer à travers les choses difficiles qui vont t'arriver dans ta vie, veille puis prie pour avoir la force d'échapper à tout cela puis d'être debout, puis de rester debout. Dieu veut te donner une bonne volonté de vouloir y aller, mais il veut te donner aussi la force d'être capable de rester debout, puis de combattre efficacement, puis de tenir ferme jusqu'à la fin. On a besoin de persévérance pour combattre, parce que tu peux être fatigué de combattre. Tu peux être fatigué de toujours t'acharner contre une chose. Tu as besoin que Dieu te donne de la persévérance, puis il faut que tu la demandes à Dieu. Puis ça, ça vient encore de Dieu, la persévérance. Dieu veut le faire en vous. Vous voulez expérimenter la nouvelle nature qui vous amène dans une vie libérée du péché et de son pouvoir, puis de venir être complètement mort face au péché, vous devez passer par cela. Voir le problème, le confesser, le présenter à Dieu, puis demander à Dieu qu'il vous donne une bonne volonté, qu'il vous donne de résister, qu'il vous donne de persévérer. Il y a un verset dans Jacques 1,12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous allez en avoir des tentations, mais persévérez, puis vous allez avoir la victoire. Le péché peut être présenté par des esprits ou par des séductions du monde, mais cela viendra de l'extérieur, parce que nous sommes morts au péché. Garder notre victoire, c'est de demeurer en dehors de ces pièges-là. Il n'y a pas de chrétien qui va vivre une vie sans jamais être attaqué, jamais être tenté. La Bible nous dit que Jésus lui-même, qui était Dieu, a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Tout ce que vous pouvez être tenté aujourd'hui, Jésus a passé par là, puis il était tenté dans les mêmes choses, mais il a tombé dans aucun de ces péchés-là. Il a été séduit, pas séduit, il a été tenté, lui-ci, par le sexe. Vous êtes tenté par le sexe? Vous êtes tenté par les excès de table ou les excès d'ivrognerie ou la drogue. Vous êtes tenté par le vol, par la fraude, par tout ce qu'on peut vivre de croche dans une vie de humaine. Jésus était tenté dans cela, mais il n'a pas tombé dans rien. Il était capable de dire non. Aujourd'hui, si le péché y est en vous, peut-être qu'il est en vous, mais c'est pas vous. Le péché. C'est le péché que vous avez laissé rentrer en vous. Maintenant, il faut que tu arrives à te dire, je m'appartiens plus, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Puis c'est pas n'importe qui celui qui nous a racheté. C'est le Créateur de toutes choses qui est venu, il a payé le prix pour notre rachat. Le diable nous tenait en sa possession à cause qu'on était livré au péché. Quand on a voulu sortir de notre vie de péché, puis on a reconnu Jésus, puis on a reçu Jésus, on a changé de vie, à cette heure, Jésus nous a rachetés, il a payé notre dette, on lui appartient. Il a payé pour notre vie. Il a payé pour notre restant de vie qu'on a à vivre sur la terre. Tu t'appartiens plus. Maintenant, tu es devenu l'esclave de Dieu. C'est fort. Tu sais, des fois, on dit, on vit chrétienne, on vit dans la liberté, puis on veut faire n'importe quoi. Je veux pas me sentir jugé par rien, je suis libre. C'est faux. Tu es rendu un esclave de Dieu, puis tu dois marcher selon ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. C'est pas une option pour avoir un plus, c'est une obligation. Tu t'appartiens plus. T'as pas le droit de te livrer au péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui appartient à Dieu. Ton corps est le Saint-Esprit qui appartient à Dieu. Nous devons livrer notre corps pour la justice. On doit se livrer pour les œuvres de Dieu qui vont être justes devant Dieu. C'est juste devant Dieu que vous soyez en train de vivre le reste de votre vie à le servir, puis à le suivre, puis à l'honorer, puis à obéir. Ça fait partie des œuvres justes qu'il a préparées d'avance pour vous. Pourquoi que c'est juste de faire ça? Parce que vous appartenez pas, vous lui appartenez à lui. C'est juste qu'on pratique ça. T'as deux options dans la vie. Soit que t'appartiens au diable, puis tu vis dans la débauche, puis tu t'appartiens pas non plus, parce que t'appartiens au péché qui t'a dominé. T'appartiens au nouveau maître qui t'a dominé, qui est le diable. T'as le choix d'être un instrument du diable, ou tu décides de te repentir, puis de te détourner, puis d'accepter tout ce qui t'est offert dans la nouvelle vie spirituelle. Puis là, maintenant, tu t'appartiens à Dieu, tu es rendu un esclave de Dieu pour porter des fruits pour la justice. Et tiens, amen à cela. Romains 6, versets 11 à 14. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Est-ce que vous vous sentez vivant pour Dieu? Quand vous allez sortir d'ici tantôt, il faut que dans votre tête, vous ayez, moi je ne vis plus que mes affaires, je suis un vivant pour Dieu. Moi je vais vivre pour Dieu. Quand je vais sortir d'ici, je veux que la bonne volonté qui m'anime m'amène à toujours penser que je suis un vivant pour Dieu. Puis à ce moment-là, il s'est dit, dans le même verset, je suis encore dans Romains 6, 11 à 14, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, puis n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Vous êtes rendus des vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ça qui est la bonne nouvelle. De pouvoir vivre une nouvelle vie dans de nouvelles règles spirituelles qui ne sont pas les règles qu'on vivait avant. C'est normal que le monde dans le monde soit tenté par tout ce qui nous entoure. Ils vivent selon l'autre règle spirituelle que si tu te livres dans le péché, tu deviens esclave du péché, tu es esclave de celui qui a dominé sur toi. Puis ils sont entraînés dans cette voie-là, mais en Jésus, croyez plus que vous êtes des morts faisant partie de cette gang-là. Vous êtes maintenant des rachetés, puis vous appartenez à Dieu, puis maintenant, votre fruit de votre vie, c'est des œuvres de justice, à vous livrer pour l'instrument de justice, puis à résister, puis à fuir le péché qui essaye de vous rattraper. Pour arriver à vivre cela, je crois qu'il est important de garder notre conscience dans les pensées de Dieu. Si tu penses pas à rien de la parole de Dieu dans toute ta journée, dans toute ta semaine, pense pas que tu vas être capable de vivre cet état spirituel-là, de marcher dans cette nouvelle vie-là, si tu y penses pas. Il faut rechercher à alimenter notre intelligence de nourriture qui vient de Dieu. Nous nous sommes nourris de Jésus en le laissant entrer à notre conversion. Jésus a dit dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Mais on doit continuer à se nourrir spirituellement à tous les jours pour garder notre esprit éclairé. Il y a plusieurs manières de se nourrir. On se nourrit quand on reçoit la parole de Dieu, quand on est à l'écoute de la parole de Dieu. On peut se nourrir aussi en travaillant pour l'œuvre du Seigneur, parce que ça nous communique une force qui nous maintient spirituellement parlant, ça nous maintient plus que tu travailles, plus que tu deviens habile. Mettons quelqu'un qui décharge des boîtes d'un camion. Quand tu commences la première journée que tu travailles, puis tu as jamais fait ça, tu as mal partout, puis tu as de la misère. Mais quand ça fait 5 ans que tu le fais, le décharger le voyage, là, t'es garoche les boîtes. Mais spirituellement parlant, ça va être la même chose. Votre force spirituelle va augmenter si vous mettez en pratique la parole de Dieu. Il y a d'autres places qu'on se nourrit. Quand on vient ici le dimanche, on se nourrit d'un repas spirituel que le Seigneur nous donne. Par son esprit, parce qu'il est présent, puis par les paroles qui nous est communiquées, par l'enseignement de la parole. C'est un repas qu'on est en train de prendre. Quand on sort d'ici, ça se peut pas qu'on soit encore pareil que comme on est rentré. Si c'est le cas, c'est parce que vous avez fermé votre bouche tout le long du lunch. Là, vu qu'on l'absorbe par les oreilles, vous avez fermé vos oreilles tout le long du lunch. Parce que Dieu a plein de bonnes choses spirituelles, puis quand on les écoute, puis on les laisse pénétrer, puis qu'on dit « Amen », ça vient de faire quelque chose dans ta vie. La même chose que tu dis « Oui, j'aime ça, ce lunch-là, puis tu manges tes boulettes, puis tu manges ton lunch », que tu saves, que tu ne saves pas comment que ça marche, il y a de quoi que ton estomac reçoit que c'est avalé, puis ça produit de la force en dedans de toi. Mais spirituellement, c'est la même chose. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, puis vous allez en avoir de la force qui va vous... Soyez ouverts à recevoir tout ce qui vous est communiqué par les messages. Il y a des paroles qui viennent exactement de la part de Dieu, que Dieu veut faire un œuvre dans votre vie. Il y a d'autres manières de se nourrir, comme à recevoir des petites collations spirituelles, c'est quand on est entre frères et sœurs, puis on se parle de la parole de Dieu. Quand on se parle de char, qu'on se parle de towing, qu'on se parle de n'importe quoi, c'est pas de la nourriture spirituelle. Ça nous encourage aux choses de ce monde. Mais si on parle de la parole de Dieu, on parle de versets qui nous ont touchés, on parle de témoignages de ce qu'on a vécu, on se donne des collations spirituelles, puis on se fortifie spirituellement les uns les autres. Souvent, on néglige certains de ces aspects de se nourrir, puis on n'a pas de regain spirituel. Ça fait même le contraire. Il y a comme une faiblesse qui s'installe dans nous autres, puis on n'a pas de force pour vivre notre vie chrétienne, puis tout ce qu'on essaye de vivre, c'est un fardeau. C'est à cause qu'on néglige de se nourrir. On risque de devenir des rachitiques spirituels, des anorexiques. Ça fait un mois que j'ai pas lu la parole de Dieu, puis qu'en plus je néglige mes assemblées. Fais pas des enfants forts spirituellement. Vous connaissez Louis Cyr? C'était une célébrité dans le monde par ses épreuves de force. Il a fait des exploits de force que personne d'autre dans le monde n'était capable. À part de Samson, bien entendu. Moi, je parle d'un personnage de nos jours, là. Ça fait à peu près 100 ans qu'il est venu au monde, puis qu'il a vécu il y a 50 ans ici, dans notre région. Juste un exemple. Une boule de 360 livres avec un seul trou dans le milieu, un seul doigt rentré dedans, puis elle va de terre. Un seul doigt. Il est à force, ce gars-là. S'il n'aurait pas mangé pendant 2 mois, il n'aurait même pas à force de se lever de son lit, puis il serait tout bien mort de faim. C'est pas à cause que tu es venu au monde avec une bonne capacité, puis avec des dons, que tu vas te maintenir spirituellement. C'est à cause que tu vas te nourrir spirituellement, que tu vas devenir fort spirituellement. Si tu négliges de manger spirituellement, tu n'auras pas la force de vivre la vie chrétienne. Tu n'auras pas encore moins la force de combattre dans ta vie chrétienne contre les péchés qui essaient de t'envahir. Je pense qu'il y a des chrétiens qui sont en train de mourir de faim. Ça, je vois ça, parce qu'ils n'ont même pas à force de se lever le dimanche matin pour venir à la table pour manger avec les autres. Puis encore moins la force de travailler puis de combattre contre ce qui l'acharne. Si tu n'as pas la force de venir à l'église le dimanche puis t'es découragé, ça ne te tente pas, t'es, pour toutes les raisons, c'est parce que tu es en train de mourir de faim spirituellement. Parce qu'un enfant de Dieu affamé, une des choses normales, c'est de vouloir manger. L'Esprit de Dieu, il veut nous amener à ce qu'on aille, qu'on reçoive, qu'on soit ouvert. Si on n'est plus rendu comme ça, c'est parce qu'on est en train de mourir de faim. Le fait de s'avoir privé de nourriture un long moment, on est arrivé à un résultat qu'il n'y a plus rien de spirituel qui nous intéresse. Puis c'est grave. On peut avoir atteint des niveaux de faiblesse extrême afin de même plus être capable de se nourrir nous-mêmes. On a besoin de se faire soigner par les autres à ce moment-là. Il faut pas se cacher dans les ténèbres puis pas l'admettre. Il faut venir à la lumière puis de les confesser. De le confesser notre état devant Dieu. Si on veut qu'il y ait quelque chose qui change. Des fois, on a besoin d'être maintenu en vie par un soluté. Comme ça, à l'hôpital, ils sont plus capables de manger, ils sont en train de mourir de faim. Ils lui donnent un petit tube plantant de bras, puis c'est de l'eau avec du sucre qui t'alimente. Parce que t'as même pas la force de te lever, puis manger, puis d'être capable de chuquer, puis de t'es obligé de te faire nourrir. Mais spirituellement, il y en a qui sont rendus comme ça. Par contre, quand on vit des états de même, qu'on veut s'en sortir, tu peux prendre des moyens pour essayer de t'en sortir. Je connais des frères qui ont essayé, pour se redonner le goût de lire la parole de Dieu, ils se sont abonnés au partage, puis ils s'encouragent à essayer de se motiver. C'est ça qui est de l'un, de l'autre, qu'on peut s'encourager à faire des petites choses, qui est comme s'administrer des solutés un l'autre, en s'encourageant, pour qu'on reprenne des forces, puis après ça, on va avoir le goût de plus de nourriture, puis on va être capable de produire plus. Il faut apprendre à s'encourager les uns les autres pour que tous avancent. La semaine passée, notre frère, quand il nous a dit, on était mis sur l'autel, on est offert en sacrifice, on est consumé. Ça, c'est une bonne odeur agréable à l'Éternel. On vit pour le Seigneur. Mais à quelque part, dans son message, ça nous ramenait toujours, « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des autres frères et sœurs qui sont autour après ça? » Faut que tu penses aux autres puis que tu leur parles pour essayer de les amener à ce qu'il y ait le goût de lire, le goût de prier, le goût de se nourrir spirituellement, puis que le goût de venir à l'église, après ça, ça va te donner le goût de t'impliquer puis de faire des œuvres. Faut s'encourager les uns les autres. Les cellules maison, ça sert à ça, les groupes vie. On essaye de se parler plus directement sur des points qui est enseigné ici. On essaye de digérer ce qui a été dit en trouvant des applications pratiques. C'est ça qui est le but. On essaye de s'encourager les uns les autres. L'un qui dit son témoignage, puis l'autre dit son témoignage, puis il a vécu telle chose avec le Seigneur. C'est toutes des choses qui font qu'à long terme, on va se fortifier dans le Seigneur. En autant qu'on est ouvert à manger pendant ces moments-là. Est-ce qu'on se voit dans ce que j'ai dit? Est-ce que ça me frustre d'entendre des choses qui est annoncées comme cela? Comme là que je viens de vous dire, là, la prêche, est-ce que ça vous frustre? Est-ce que ça vous décourage? Est-ce que vous aviez le goût d'entendre des choses agréables? Ou vous êtes content d'avoir entendu cela? Puis vous savez que c'est la parole de Dieu, puis qui était confirmée par notre frère qui nous a amené exactement les mêmes versets en parlant de fruits dignes de la repentance. Si vous êtes ouvert à la voix de l'Esprit de Dieu, je vais demander aux musiciens de vous avancer. Est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ce que j'entends, ça me pousse dans une tristesse? Est-ce que ce que je viens de vous dire là, ça vous pousse dans une tristesse? Est-ce que ça vous pousse dans du regret ou de la repentance? C'est ça qui est le but de Dieu. Tu peux entendre des messages, puis qu'il n'y ait pas son effet dans ta vie si tu ne l'admets pas. Puis si tu es assis dans le banc, là, puis tu réalises que c'est pour toi, on s'en fout ce que le monde pense, on n'a rien à se cacher, on n'a pas de masque. Mais si on est prêt à refaire la paix avec Dieu, puis on veut que Dieu continue à intervenir dans quelque chose de notre vie, avancez-vous en avant. On va prier ensemble. Faites un pas de foi devant le Seigneur. Croyez que quand que Dieu fait un appel à la repentance, c'est parce qu'il y a de quoi à faire, un changement dans votre vie. Êtes-vous prêt à prendre ce point-là, ce problème-là, puis de le mettre devant Dieu, puis de le confesser à Dieu, puis demander à Dieu qu'il vous donne ensuite la bonne volonté, qu'il vous donne ensuite la force de combattre contre cela, qu'il vous donne ensuite la persévérance, le goût de continuer jusqu'à la fin, à sortir de tous ces points-là qui essayent de nous empoisonner, puis qui nuisent à notre relation spirituelle. Dieu vous parle-t-il ce matin? Êtes-vous prêt à vous offrir à Dieu pour qu'il vous change?